ici au Liban, nous ne sommes pas une grosse équipe, mais nous avons un très grand réseau de partenaires. C'est, je crois, ce qui fait notre singularité ici, et c'est un réseau de partenaires qui est un réseau ancien. Nous avons des écoles, des dispensaires, des associations que nous soutenons, que nous accompagnons depuis plus de 50 ans parfois. Et donc, c'est ce qui nous singularise ici. Et puis, le Liban, pour nous, est un pays particulier parce que au Liban, les communautés chrétiennes ne sont pas une minorité démographique. Elles ont un poids politique dans ce pays. Et surtout, elles ont un poids important au niveau institutionnel. Si je prends l'exemple, par exemple, des écoles chrétiennes du Liban, on parle de 20% des enfants libanais étudient dans ces écoles. Et elles sont réparties dans tout le pays, au sud, au nord, dans les grandes villes, dans les quartiers pauvres, les zones rurales. Il y a des écoles pour les familles riches, mais aussi beaucoup d'écoles pour les élèves de classe moyenne, voire pauvres et très pauvres. Et ces institutions, ce sont aussi des orphelinats, des centres pour personnes âgées, handicapées, etc. Et je ne parle pas non plus du secteur associatif libanais, qui en lui-même est une vraie richesse de ce pays et une vraie chance pour ce pays. Voilà. Donc, pour nous, le Liban, pour l'œuvre d'Orient, c'est à peu près 10 millions d'euros par an, ce qui représente entre 30 et 40% de notre collecte annuelle. Donc, c'est considérable. Et donc, ce sont principalement des dons qui viennent de dons privés, mais également de bailleurs institutionnels. En particulier, nous collaborons à un fonds d'État avec l'État français qui s'appelle le Fonds des écoles d'Orient et qui soutient les écoles chrétiennes francophones du Proche et Moyen-Orient, donc celle du Liban qui prend une part importante vu la densité et le nombre de ces écoles. Et nous collaborons également avec d'autres ONG présentes sur le terrain, la Caritas Liban, ici présent, l'Aide à l'Église en détresse et d'autres associations libanaises. Et nous sommes également en relation avec des sociétés de bienfaisance qui ne sont pas chrétiennes, en particulier les sociétés de bienfaisance druzes, sunnites, les makassèdes, et chiites, les mabarat, à travers, et nous échangeons avec elles, nous nous concertons, en particulier via le secrétariat général de l'enseignement catholique. Voilà, donc ça c'était pour la parenthèse. Concernant ces partenaires actuellement, comment vivent-ils, comment traversent-ils cette guerre et cette crise? Donc on l'a dit, aujourd'hui, on parle de 1 200 000 déplacés au Liban qui sont arrivés, je dirais, qui ont déversé subitement, notamment sur la capitale, mais aussi au nord, ou dans les montagnes libanaises, dans la plaine de la Bekaa. Donc tout d'abord, la première mission, la première chose que font nos partenaires sur le terrain, c'est d'ouvrir leurs portes aux populations déplacées. Depuis plusieurs jours, avec l'équipe, on a tourné dans les centres d'accueil qui sont notamment des écoles publiques, des écoles privées, des monastères, des couvents, voilà, qui se sont ouverts dans tout le pays pour accueillir ces déplacés qui viennent notamment du sud et de la banlieue sud. Il faut souligner la grande majorité des déplacés, en fait, ne sont pas visibles. Ils ne sont pas dans des centres, ils sont chez des proches, chez des amis, dans de la famille. Et donc, ce qui rend d'abord cette période extrêmement confuse pour identifier les besoins et les évaluer, mais aussi ça rend compliqué, je dirais, l'identification et l'évaluation de ces déplacés, notamment quand ils ne sont pas dans des centres et ces gens-là ne sont pas dans les radars. Et donc là-dessus, je vais laisser la parole à Joséphine, qui va vous donner un exemple concret d'une association, Libami, qui accueille notamment, qui prend en charge ces déplacés dans les maisons.
Libani, c'est une association qui a été créée en 1995 et qui vient en aide à des familles qui vivent déjà dans une grande précarité dans le quartier pauvre de Naba, qui est à Bourjamou, dans la banlieue très proche de Beyrouth. Cette association, elle intervient à différents niveaux grâce à une équipe de travailleurs sociaux, donc en proposant du soutien psychologique aux familles, du soutien scolaire et du soutien financier avec des colis alimentaires, des médicaments, etc. L'œuvre d'Orient, elle soutient déjà et bien avant la guerre cette association qui peine à s'en sortir car depuis la crise, le nombre de bénéficiaires a explosé et les fonds sont très restreints puisque les recettes, elles sont évidemment inexistantes. Et en fait, depuis presque 3 semaines, ce qui s'est passé, c'est que ces familles, elles accueillent des déplacés des zones de guerre, donc souvent leurs proches, leurs familles. Les assistantes sociales de Libani, elles ont déjà comptabilisé 550 personnes qui sont accueillies par ces familles, mais il y en a des dizaines qui arrivent chaque jour en plus. Donc ces familles, elles sont musulmanes ou elles sont chrétiennes. Elles vivent dans des logements qui sont déjà très exigus et elles ont déjà des grands besoins, même sans accueillir ces personnes qu'elles accueillent. Donc, à titre d'exemple, on est allé visiter une famille, donc c'est un couple et deux enfants, qui vivaient déjà avec l'aide de Libani. Le mari, il est coiffeur, il gagne 100 dollars par mois. Et donc, ils ont deux enfants. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, ils ont accueilli 14 membres de leur famille dans un logement qui fait pas plus de 30 mètres carrés. C'est des gens qui ont tout perdu. Par exemple, là, les 14 personnes, c'est principalement des femmes et des enfants. Très peu d'hommes parce que les hommes sont souvent restés dans les maisons pour garder la maison malgré les bombardements. Il y avait deux femmes dont la maison a déjà été bombardée. Et c'est des personnes qui sont aujourd'hui traumatisées. Pour l'anecdote qui n'en est pas une, la femme qui nous accueillait, elle avait déjà été déplacée en 2006, lors de la guerre de 2006, et c'est comme ça qu'elle a rencontré son mari et qu'elle est restée à Naba. Ce qui est très particulier dans ce type d'accueil, donc quand les familles reçoivent les bénéficiaires, c'est que ça passe complètement sous les radars à la fois des ONG et à la fois du gouvernement, qui, eux, aident uniquement les centres d'accueil. Au niveau de l'aide que là on va fournir, on leur a déjà donné des centaines de matelas, d'oreillers, de couvertures. Ce qu'on veut faire, c'est pouvoir leur donner un fonds d'urgence, en plus de l'aide classique qu'on donnait à Libani, pour pouvoir qu'ils achètent vraiment les produits de première nécessité, les couches pour les enfants, le lait, l'alimentation, les produits d'hygiène, la nourriture. Et la deuxième chose qui va très très vite, la question qui va très vite se poser, pardon, c'est celle de la scolarité des enfants. On est dans une situation d'urgence, mais on ne sait pas combien de temps ces enfants-là vont rester. On peut s'imaginer que ça va durer plusieurs semaines, plusieurs mois. Ces enfants-là, ils étaient scolarisés soit dans l'Est, soit dans le Sud du Liban, soit dans la banlieue Sud de Beyrouth. Et maintenant, ils ne sont plus scolarisés et on est en train de voir comment on pourrait les scolariser dans les écoles de Naba, qui sont déjà dans des situations catastrophiques.
Et alors, un petit mot sur cette association Libami, parce que elle fait partie, c'est un exemple, si vous voulez, de toutes ces associations libanaises qui font un travail admirable, en fait, sur le terrain, parce que c'est elles qui font le travail que l'État ne fait pas. Et cette association, aujourd'hui, qui existe depuis la guerre civile libanaise, en fait, aujourd'hui, même avant la guerre, avait déjà du mal à exister. C'est-à-dire que nous-mêmes, à l'œuvre d'Orient, on a un nombre important de partenaires qu'on aide depuis longtemps sur des projets bien précis, etc. Mais notre aide n'a jamais été indispensable à leur survie. Or, depuis maintenant quelques années, notre aide est devenue indispensable à leur survie. Typiquement, cette association Libami, les assistantes sociales qui travaillent auprès de ces familles, qui les visitent chez elles, ne sont plus payées, n'ont plus de salaire si nous ne payons pas les salaires. Donc c'est pour ça qu'on, vous voyez, à côté de cette, en fait, ce secteur associatif, il est indispensable pour que cet accueil soit fait dans ce contexte de crise humanitaire. Mais déjà bien avant, il avait déjà du mal à exister. Donc ça, c'est aussi très inquiétant, il faut le dire. Donc les autres déplacés sont dans des centres, comme on l'a dit. Alors, on a eu, l'œuvre d'Orient a fait un communiqué de presse la semaine dernière. On voulait en parler. On a eu, dans la plupart des cas, l'accueil s'est bien passé. C'est-à-dire que les familles sont arrivées, il y a eu une solidarité entre Libanais. Une aide a été apportée. On a en revanche eu quelques exemples négatifs où certains établissements scolaires, notamment publics et privés, ont été forcés par des hommes armés, des miliciens, souvent affiliés au mouvement Hamal ou au Hezbollah, pour rentrer dans ces écoles et y mettre des familles. Alors que ces écoles et ces établissements étaient prêts à ouvrir leurs portes, mais dans un certain cadre et dans des conditions humanitaires et sécuritaires dignes. On a un certain nombre de gardiens, de responsables d'école et de religieuses qui vivent sur place, qui ne sont plus libres d'aller et venir où ils le veulent dans l'établissement. Il y a eu des menaces également qui ont été faites à l'encontre du personnel de l'établissement et des religieuses, des menaces d'enlèvement, des menaces de mort. Et donc Monseigneur Gollnisch, notre directeur général, a lancé un appel parce que cela pose une cible non seulement sur les déplacés qui sont dans ces écoles et dans ces centres, parce qu'on ne sait pas qui sont ces hommes armés et ces miliciens, mais également parce que ils mettent en danger les résidents qui habitent les lieux. Voilà, donc on a identifié cette école où ça s'est passé, mais en réalité on a eu d'autres échos de d'autres établissements. Donc c'est une réalité, et à côté de ce communiqué de presse, nous avons également fait une note d'information aux Nations Unies sur cette violation des droits. Voilà. Après, ça c'est un exemple, il ne faut pas s'arrêter à cela. On a, dans la très grande majorité des cas, ça se passe bien. Là-dessus, je vais laisser Simon parler de son expérience dans un des centres d'accueil de déplacés où on accueille des gens de plusieurs confessions et de plusieurs régions du Liban.
Alors, je vais revenir sur les problématiques que j'ai rencontrées lors de mon volontariat avec la première vague de déplacés du Sud-Liban. En fait, j'avais plusieurs missions qui étaient sur la fiche de volontaire. Et arrivé sur place, on s'est rendu compte que le plus gros besoin, en fait, c'était de suivre la scolarité des enfants. Et je me suis rendu compte, du coup, à cette occasion, de toutes les conséquences, en fait, de ces déplacements. Alors, il faut vraiment se mettre dans l'idée que les familles, en fait, ils sont dans des situations extrêmement précaires au niveau financier et que ça a un impact, notamment dans les discussions des parents. Le fait que ce soit très anxiogène comme milieu, ça a forcément aussi un impact sur les enfants. Les parents ont perdu pour la plupart leurs emplois. La vague de déplacés qu'il y a eu dans le sud, le centre où j'étais, c'était des déplacés qui avaient perdu leur emploi puisqu'ils travaillaient dans le milieu agricole au sud Liban, et avec les bombardements, les conséquences aussi du phosphore sur les terres, ils ne peuvent plus revenir et travailler comme ils le faisaient avant. Donc il n'y a plus cette source de revenus. Au moment où j'étais dans ce centre, qui est à Antelias, situé dans un ancien couvent, il y avait à peu près une dizaine de familles, une soixantaine de personnes, et en fait, les enfants qui ont été accueillis, des familles viennent de milieux différents, de villages différents. Ils étaient tous chrétiens, ils venaient des villages chrétiens de la frontière israélo-libanaise, mais ils étaient dans des enseignements très différents, donc soit dans le secteur public, soit dans le secteur privé. Et on s'est rendu compte que ce mélange crée des problèmes, notamment pour l'enseignement des enfants, parce que les enfants du secteur public ont pâti de la situation des écoles avant la première vague de déplacés, et n'ont plus le même niveau scolaire que les enfants qui sont restés dans le secteur privé. Il y a aussi une autre fracture, c'est la fracture de la langue, avec l'enseignement anglophone et l'enseignement francophone. C'est très difficile de faire le lien, en fait, quand des élèves ont commencé en anglophone, ils passent en francophone au moment de l'aide, c'est très compliqué. Il va y avoir sans doute des initiatives là dans les jours qui viennent pour apporter une aide aux devoirs, comme ce qui s'est passé dans mon cas en tant que volontaire. Mais il faut bien comprendre que ça reste quand même une aide qui est vraiment dégradée par rapport à la qualité d'enseignement qu'il peut y avoir comment dire, dans des écoles en présentiel. Donc ça, c'est une première fracture. Il y a aussi le suivi des parents, qui n'est pas du tout le même en fonction des classes sociales, en fonction des villages où ils ont été. Et aujourd'hui, au moment où j'étais volontaire, il y avait entre 90 et 100 000 déplacés. Aujourd'hui, il me semble qu'il y en a plus d'1 200 000. Ce centre a accueilli ces 10 derniers jours, avec l'intensification des frappes, 23 familles en plus. Donc, ils vont devoir sans doute ouvrir de nouveaux locaux dans la montagne, à Baskinta. Est-ce que j'ai fait le tour de ces problématiques? Oui, et de manière très pragmatique, le centre, en fait, consomme énormément d'argent en dépenses de mazout, de chauffage, d'électricité, de repas, de salaire des employés. On compte à peu près pour une dizaine de familles et 60 personnes, 30 000 dollars par mois pour faire fonctionner le centre. C'est un centre qui s'est rendu dépendant aussi des aides, et notamment des aides qu'on a apportées, nous, Œuvre d'Orient. Et si ces aides sont coupées, en fait, on a du mal à projeter une situation pour la suite. L'année dernière, les élèves que j'avais avec moi pour l'aide aux devoirs, ils avaient eu simplement un jour de cours en présentiel avant qu'il y ait les attaques du 7 octobre. Donc, en fait, concrètement, ils ont quasiment perdu déjà un an de scolarité. C'est des problématiques, du coup, qu'on va, je pense, retrouver là dans les prochains jours, si la guerre perdure. Quoi d'autre? Il va y avoir la problématique des shifts aussi sur les écoles, tout ça.
En fait, voilà, vous avez vu donc la singularité de cet exemple, de ce centre, c'est pour montrer que d'abord, l'accueil de déplacés, ça coûte. C'est quand des gens arrivent, ils ont tout perdu. Souvent, ils n'ont pas forcément d'argent sur eux. Enfin, ils arrivent avec leurs habits, ils arrivent avec un traumatisme. Et ces gens-là, il faut les accueillir, il faut les nourrir, les loger, leur donner à manger, s'occuper de la scolarité de leurs enfants. Enfin, en fait, c'est un coût monstrueux en réalité. Et donc, il faut imaginer ce que ça peut représenter en termes d'accueil, surtout dans un pays qui allait déjà très mal. Voilà, donc ça, c'est pour vous donner la première action de nos partenaires sur le terrain, c'est l'accueil des déplacés. Le deuxième, c'est le soin apporté aux blessés. Au Liban, vous avez tout un réseau d'hôpitaux, de centres de soins primaires et de dispensaires qui sont actifs. Vous avez également un réseau d'ONG actifs au domaine sur le plan de la santé. Vous avez une Croix-Rouge libanaise, vous avez l'Ordre de Malte, vous avez voilà, plusieurs acteurs qui sont actifs. Mais on voulait attirer votre attention sur un hôpital en particulier, qui est l'hôpital libanais Jaitaoui, qui est dans Beyrouth, qui est un des grands hôpitaux de Beyrouth. C'est un hôpital universitaire et qui a été très endommagé par l'explosion du port de Beyrouth, qu'on a contribué à réhabiliter et qu'on aide aujourd'hui à fonctionner, mais dans des conditions extrêmement difficiles. Et sa singularité, c'est qu'aujourd'hui, cet hôpital a le seul service des grands brûlés du Liban et accueille notamment les personnes civiles qui sont frappées, qui ont été touchées, blessées par les bombardements. Et donc, Mayol va vous dire un mot, sur cet hôpital en particulier.
Pour vous présenter un peu plus le rôle de cet hôpital, donc il faut savoir qu'en plus d'être un partenaire de longue date, c'est surtout une institution médicale de premier plan ici au Liban et notamment dans la capitale. Donc Vincent l'a mentionné, c'est l'hôpital universitaire lié à l'université libanaise, la seule université publique au Liban. Donc il y a une mission de soins essentielle, mais aussi une mission de formation, puisqu'il y a les résidents, les stagiaires, les internes de l'université libanaise qui viennent y faire leur stage. Également, c'est un hôpital qui a plusieurs spécialités qui sont uniques au Liban, et en particulier le service des grands brûlés. Donc, comme ce sont les seuls dans le pays à pouvoir prendre en charge les cas les plus graves, c'est aussi l'hôpital qui est la référence du ministère de la Santé, qui va rediriger les cas les plus graves venant des autres hôpitaux du pays vers l'hôpital de Jaïtaoui. Ces soins au centre de Grand Bulle sont des soins qui sont à la fois essentiels, mais qui sont surtout très complexes. La complexité vient de plusieurs points. D'une part, parce que les blessures infligées par la guerre et les explosions sont des blessures de type particulier qui sont souvent plus difficiles à soigner que les brûlés qu'on peut avoir dans des accidents classiques. D'autre part, c'est des soins qui sont pluridisciplinaires avec besoin en diverses spécialités, donc la pédiatrie, puisqu'il y a des enfants qui sont malheureusement touchés, la chirurgie, des soins intensifs, puisque certains patients sont intubés, parfois sous anesthésie générale pour effectuer certains soins et changer les pansements dans les cas les plus graves. Ce sont des soins qui sont longs, pardon, et qui sont épuisants pour les soignants. Donc pour les cas les plus graves, une infirmière du service me confier qu'il fallait entre 3 et 4 heures pour changer les pansements de chaque patient, et ce, tous les 2 jours. S'ils ne font pas à ce rythme-là, il y a bien sûr un risque d'infection, et puis ces soins sont aussi très durs psychologiquement pour les personnes qui les réalisent, puisque les infirmières et les médecins qui travaillent dans ce service doivent être particulièrement entraînés face à ce type de situation. Ce service, aujourd'hui, il a des besoins qui sont urgents. D'abord des besoins financiers, puisque la direction de l'hôpital estime que le coût de ces soins est d'environ 800 $ par jour et par patient, hors salaire et frais indirects. Or, comme ce sont des blessures liées à la guerre, y compris sur des personnes civiles, il s'agit du ministère de la Santé qui doit prendre en charge ces soins. La plupart des caisses d'assurance ne couvrent pas les dommages liés à la guerre. Et c'est directement le ministère de la Santé qui promet une prise en charge. Le problème, c'est que cette prise en charge, elle arrive bien souvent avec du retard. Donc l'hôpital est obligé d'avancer les fonds. Et surtout, elle est largement insuffisante. Dans le meilleur des cas, on m'a parlé de 450 $ par jour, donc ce qui est bien loin du coût réel de ces soins. De plus, il y a un problème de ressources humaines, puisque pas n'importe quel infirmier, médecin et soignant peut travailler dans ces cas qui sont complexes. Les infirmières spécialisées sont en nombre largement insuffisant, Elle nécessite une formation qui est longue et qui est très difficile psychologiquement, étant donné le type de blessure. Donc tout cela génère une inquiétude croissante sur l'évolution de la situation, puisque si la guerre continue, l'afflux de blessés dû à des explosions et à des brûlures va augmenter. Et aujourd'hui, le service, qui comporte 9 lits, est déjà plein. C'est-à-dire qu'ils mettent déjà des patients dans d'autres services, des enfants en service de pédiatrie, en soins intensifs, pour essayer de s'adapter au mieux à la situation. Malheureusement, avec les bombardements qui continuent, les blessés vont continuer à arriver et on ne sait pas comment l'hôpital va pouvoir gérer tous ces patients. Donc pour conclure, en fait, ce service, par sa singularité dans le Liban, est un maillon critique de la chaîne de soins. Donc il y a les premiers secours, les premiers soins qui vont être donnés aux blessés les plus légers, mais au bout de la chaîne, pour les cas les plus graves, c'est un maillon qui est essentiel et qui est critique parce qu'il n'y a pas d'autre alternative et ils sont aujourd'hui déjà en difficulté. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, cet hôpital n'est pas suffisamment soutenu et même s'il s'agit d'un de nos partenaires, nous n'avons pas les moyens de pallier à toutes ces défaillances et donc nous appelons les institutions, notamment internationales, à venir en aide à cet hôpital, notamment pour cette période de guerre, puisqu'ils assurent un service qui est essentiel à la population.
Merci Mayol. Et donc pour terminer, la troisième action de nos partenaires, ce sont ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas partir. Il faut imaginer que dans cette guerre, toutes les populations ne sont pas, n'ont pas quitté les villages. Et notamment, on a au Liban un certain nombre de villages au sud, de villages chrétiens en particulier, où les populations ne sont pas complètement parties. On l'a dit, la guerre pour eux a démarré le 8 octobre. Donc c'est une population qui déjà est très fatiguée, très éprouvée depuis un an par les frappes qui ont lieu autour, dans leurs champs, parfois près de leur maison, etc. Depuis un an, ces populations en plus ont voulu se préserver de la guerre. L'armée libanaise étant absente de cette région, ce sont les villageois, notamment les hommes, qui ont mis en place un système de surveillance dans les villages, de jour et de nuit, pour empêcher que des milices ne rentrent dans les villages, notamment pour envoyer leurs projectiles de l'autre côté de la frontière. Et donc, ils n'ont pas voulu prendre part à ce conflit et ils sont littéralement aujourd'hui coupés du monde parce qu'aujourd'hui, les routes sont coupées avec les ordres d'évacuation. Et donc, on a notamment dans un certain nombre de villages que je peux vous citer, le village de Rmeij, par exemple, on a encore entre 5 000 et 6 000 personnes qui vivent là-bas. On a des villages, notamment des villages chrétiens, où il y a eu des ordres d'évacuation, où les populations ont dû partir, comme le village d'Aïn Ebel. Et 180 personnes de ce village ont trouvé refuge dans le village voisin de Rmeij. Et puis, on a des villages qui se sont littéralement vidés, Al-Mashab en particulier, Debel aussi, où il ne reste plus qu'une trentaine de jeunes qui gardent ces villages. Donc, si vous voulez, pour vous donner une idée, dans cette région du sud Liban, entre Saïda et Tyr, on estimait avant la guerre à environ 60 000 chrétiens dans cette zone. Aujourd'hui, d'après les chiffres qu'on a, on en a environ 10 000. Donc, il reste un sixième des populations qui restent sur place, les autres sont déplacés, donc c'est un véritable déracinement qui est en train d'avoir lieu. On ne sait pas si ces gens pourront rentrer chez eux et dans quelles conditions. Nous ignorons évidemment les plans israéliens et nous craignons que ces déplacements ne durent dans le temps. Dans les dommages qui sont causés dans cette guerre, vous l'avez compris, il y a des populations de tout le Liban, de toutes les confessions. Et nous-mêmes, nous avons des partenaires qui ont été directement impactés. Je pense notamment à une des écoles des Filles de la Charité qui se trouve dans la banlieue sud, à Mreijé, qui a été touchée par une frappe aérienne. Nous avons également l'hôpital Sainte-Thérèse, qui se trouve également à proximité de la banlieue sud, qui est hors service, où nous venions d'y installer des panneaux photovoltaïques avec Mayol, donc tout ça a été réduit à néant. Et également une association partenaire, la Fondation Al-Kafaat, qui accueille près de 1 500 personnes handicapées, qui est une structure que nous soutenons avec des fonds propres, mais aussi avec le centre de crise et de soutien du ministère des Affaires étrangères française, qui a vu ses centres de soins en partie endommagés par des frappes aériennes, parce qu'elle a un certain nombre de centres au sud de Beyrouth, et donc elle a dû évacuer heureusement avant le personnel soignant et les bénéficiaires. Voilà, donc pour vous dire que cette destruction touche aussi nos partenaires, et je ne parle pas aussi de l'école de Ain Ebel, par exemple, qui a également été touchée par les bombardements. Nous sommes en contact direct avec ces populations chrétiennes qui restent au sud du Liban, notamment avec les prêtres et en particulier avec une religieuse qui était la directrice de l'école des 5 heures à Ain Ebel, au sud, qui était une grande école, 1200 élèves, une école qui accueillait des chrétiens et des musulmans, et qui est aujourd'hui déplacée à Armeish. Et qui nous donnent des nouvelles tous les jours de ce qui se passe et du drame qu'ils sont en train de vivre. Il faut imaginer qu'ils sont bloqués, qu'il y a des frappes aériennes autour d'eux, que les vivres se réduisent, qu'ils ne savent pas ce qu'il va advenir d'eux. Et ils sentent que l'étau se resserre également autour d'eux, l'étau des frappes aériennes, et ils sentent aussi la présence des milices autour. Donc leur présence est très critique. Voilà. Donc. On soutient aussi ces personnes-là. Aujourd'hui, un convoi est parti, escorté par l'armée libanaise en direction de Klayra et Marjayoun, qui sont aussi deux villages chrétiens de la frontière. Et donc, des convois, nous, on a apporté une aide médicale, mais il y a également eu un soutien en particulier de l'Université Saint-Joseph de la nourriture. Et nous sommes en train de réfléchir actuellement à l'élaboration d'un convoi qui puisse partir à Armeish en lien avec les gens sur place, mais aussi l'armée libanaise, la FINUL également. Voilà, donc on essaye aussi de toucher, de continuer de soutenir ces gens qui restent dans leur village. Voilà, donc je vais conclure ici. Cette conférence de presse, le but, c'était vraiment, je dirais, je sais que vos médias respectifs traitent de l'actualité ici, du conflit, sans doute aussi de la crise humanitaire, mais on voulait vraiment vous interpeller de nouveau sur ce qui se déroule ici, qui est vraiment quelque chose de sans précédent dans un pays qui n'a pas d'État, qui est au fond du gouffre. Et on a vraiment le sentiment, encore une fois, que l'opinion publique internationale n'est pas suffisamment mobilisée sur cette crise humanitaire, que d'une certaine façon, les victimes civiles et le sort de la population libanaise passe un peu après, que les blessés et les tués civils sont aussi un peu désincarnés, qu'on ne les voit pas suffisamment. Et donc, on voulait leur lancer un appel dessus. Et puis, on sent aussi, nous, que si tout ce secteur associatif, toutes ces institutions religieuses qui jouaient déjà un rôle vital de service public pour toute la population libanaise avant la guerre, si aujourd'hui, elles n'ont pas les moyens de tenir dans le temps dans cette crise, on va véritablement vers des problèmes encore plus graves. Il y a eu un article il y a quelques jours dans L'Orient le Jour où plusieurs organisations internationales faisaient le même constat que nous, c'est-à-dire que la mobilisation des donateurs n'est pas à la hauteur de la crise humanitaire actuelle. Voilà. Donc nous, de notre côté, au niveau de l'œuvre d'Orient, et je me fais le relais de notre directeur, Monseigneur Golnisch, nous lançons un appel aux donateurs pour soutenir la population libanaise. Je me fais aussi le relais de Monseigneur Golnisch à ce niveau-là. Nous appelons à ce que le Parlement se réunisse pour élire un président, former un gouvernement de plein exercice qui puisse venir en aide à la population libanaise et aussi que l'aide internationale n'aille pas à l'État libanais tant qu'il n'y a pas de président et de gouvernement de plein exercice, mais que cette aide aille aux organisations, aux associations libanaises présentes sur le terrain avec un contrôle des organisations internationales. À l'œuvre d'Orient, nous, évidemment, nous sommes catastrophés, comme tout le monde, un peu pris de court sur ce qui se passe ici, mais nous croyons aussi, nous voulons croire que cette tragédie, pourrait être l'occasion d'une renaissance pour ce pays aussi, d'un redressement. Nous croyons au Liban, on le dit depuis longtemps, et Monseigneur Golnisch le dit souvent, c'est un pays qui n'est pas pauvre, le Liban, c'est un pays qui a beaucoup de ressources, c'est un pays qui a de belles écoles, de grandes universités, une diaspora qui n'est pas pauvre, c'est un petit pays de 6 millions d'habitants, et la majorité de la population, on le sent, ne souhaite pas de cette guerre, ne veut pas de cette guerre et aspire à la paix. Et donc on croit qu'on peut bâtir sur ça, et on espère que de ce drame, quelque chose puisse renaître. Et que nos partenaires sur le terrain, associatifs et institutionnels, joueront un rôle dans la reconstruction de ce pays. Voilà. Si vous avez des questions dans
Commence
la
par la salle.
salle, et puis ensuite en ligne, vous êtes prié de le faire. Voilà, vous êtes les bienvenus.
Est-ce qu'il y a des questions dans la salle?
Des remarques, des...
Non, c'est bon.
Oui. Alors, je vais vous dire franchement, et ça c'est l'expérience ici, d'abord on est dans une période extrêmement chaotique, extrêmement confuse. Nous-mêmes, faire l'évaluation des besoins, c'est très compliqué parce qu'en fait, vous pouvez être dans un centre qui accueille 300 personnes déplacées et le lendemain, il n'y en a plus que 50 parce que les gens sont partis ailleurs et que ça a bougé, donc c'est très compliqué. On sent qu'au niveau associatif, il y a une mobilisation, mais c'est pareil, elle bouge en fait. Les choses évoluent et donc c'est un peu compliqué. Nous, on a tout de suite clairement le besoin le plus primaire, le plus urgent qui nous a été remonté, c'est en fait quand les gens arrivent, ils ont besoin de dormir, donc c'est un matelas, une couverture, c'est des choses extrêmement simples. Donc nous, on a fait pas mal de distributions, on a distribué 2000 couvertures, 2000 oreillers, voilà, 2000 tapis de sol, des choses comme ça, que d'autres aussi ont fait, hein, notamment dans des centres, mais aussi dans des familles, et en particulier dans la montagne, parce que pas mal de déplacés sont dans le Mont Liban, et c'est des régions où il va rapidement faire froid, où il va bientôt neiger, et tout ça. Donc voilà, on essaye de prévoir, et on craint aussi que les déplacements continuent, en fait. Et que je vous dise, toutes ces populations qui ne sont pas encore parties du Sud-Liban, à un moment donné, soient contraintes de le faire et qu'on ait de nouveau des vagues de déplacés qui déferlent sur le pays. C'est notre crainte. Donc voilà ce qu'on a mis en place. On commence à se parler entre les ONG pour voir un peu qui fait quoi, etc. Mais voilà, je ne vous cache pas que c'était un peu le cas aussi après l'explosion du port de Beyrouth. C'est très compliqué de le faire. Beaucoup d'associations sont actives dans les centres, d'associations libanaises notamment, mais aussi d'organisations internationales. Je crois que chacun fait ce qu'il peut, mais tout le monde est un peu catastrophé de ce qui arrive, et puis avec des moyens aussi limités, quoi. On le sent aussi, moi c'est quelque chose, moi ça fait 8 ans que je suis là, j'étais présent sur Beyrouth au moment de l'explosion du port de Beyrouth, et à l'époque on sentait une vraie énergie, on sentait que des fonds étaient arrivés, qu'il y avait une vraie mobilisation. Qu'on ne voit pas ici. Nos partenaires sont fatigués. Certains sont déprimés. Et je vous dis, certains, c'est vraiment la goutte d'eau. Donc, ça, je crois qu'il faut, il faut le souligner. Et donc, c'est pour ça que ça nous paraît essentiel de ne pas les abandonner, dans cette épreuve.
Juste pour avoir une idée, on a essayé de dresser un inventaire de liste de tous les partenaires, parmi nos partenaires qui accueillent des déplacés. Donc on arrive à un total d'environ 70 lieux qui accueillent des déplacés avec des nombres de déplacés très variables, donc en fonction de la couleur. Après, bien sûr, cette liste, elle n'est pas exhaustive et elle risque de bouger au fil du temps, au fur et à mesure des visites, des contacts et puis des différents mouvements de personnes, tout simplement.
J'aimerais d'abord vous féliciter pour cet exposé, qui est vraiment remarquable. Ceci félicite Alain Dorian pour tout l'effort qu'il a fait dans ces heures critiques. J'ai entendu dire qu'il y a un risque de blocus du Liban. Avec la frappe sur la route de Damas et l'interruption des communications, pouvoir commercial, grand voie commerciale, et maintenant une annonce des frappes sur le littoral. Quelque chose, est-ce que vous avez une idée si quelque chose se prépare ou non sur un éventuel blocus maritime aussi, qui empêcherait l'approvisionnement normal?
Alors, bon, nous, on n'est pas dans le secret des dieux, on n'a pas de boule de cristal non plus, et voilà, on se garderait bien de faire de prophétiser sur ce qui va se passer. On sent quand même qu'au Liban, c'est un pays, enfin moi je compare notamment avec un pays voisin, la Syrie, qui lui est sous les sanctions internationales, etc. On pense que le Liban a quand même beaucoup d'amis, c'est un pays où il y a une présence des ambassades, des organisations internationales. De mon point de vue, hein, c'est mon opinion, mais je ne vois pas personnellement un blocus sur ce pays. Ça ne me paraît pas possible. Hein. Enfin, ça me paraît peu envisageable actuellement. J'ai le sentiment que ce pays a encore des ressources, qu'il y a encore des lieux d'approvisionnement, puis il y a le port aussi de Tripoli. Enfin, il y a d'autres régions. Donc, je crois que ce pays a des potentiels, en fait, a des ressources, a des relations et que cette amitié qui le lie avec, bon, avec la France, mais aussi avec d'autres pays, avec la diaspora, fait que s'il y a une mobilisation, ça peut lui donner les moyens aussi de continuer. Mais encore faut-il que l'État libanais soit présent. Merci.
Est-ce qu'il reste des questions dans la salle ou pas? Non. Est-ce qu'il y a des questions en ligne?
Est-ce que je peux poser une question?
Oui.
Oui. Bonjour à tous. Bonjour Vincent. Juste une petite question très très ponctuelle. La Banque mondiale a annoncé il y a quelques jours qu'elle allait réorienter 250 millions de dollars pour une aide d'urgence au Liban. Est-ce que vous voyez quelque chose sur place? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe ou pas du tout?
Pour le moment, je ne sais pas le temps que met ce type de virement à arriver ici et à se mettre en place. Et pour que, voilà, mais pour le moment, nous, dans les différentes visites qu'on a faites, on est vraiment sorti de Beyrouth, on est allé plus au sud, aussi dans les montagnes, on n'a pas vu les effets de cette aide pour le moment. Et on ne sait pas non plus, je ne saurais pas vous dire à quel volet, quelle thématique elle est attribuée. Est-ce que c'est l'accueil de déplacés? Est-ce que c'est le soin, etc. Donc, oui.
C'est intitulé aide humanitaire d'urgence. Je ne sais pas ce que ça
OK.
veut dire, mais voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui, moi j'ai une question, Jean-Marie Dumont, et de Madère Famille Chrétienne. Est-ce que vous pourriez m'indiquer quelle est la proportion d'écoles qui est ouverte ou si toutes les écoles sont fermées actuellement? Et la deuxième question, c'est par rapport à la situation sécuritaire. Est-ce qu'au Liban, on se déplace, c'est très compliqué de se déplacer aujourd'hui. Là, c'est plus une question de journaliste. Ou est-ce que c'est possible relativement facilement de venir au reportage?
Alors, les écoles, en fait, enfin, suite à l'attaque des Beepers et ensuite à la mort de Nasrallah, les écoles ont fermé pendant quasiment 15 jours sur tout le pays, ce qui a été, pour tout vous dire, assez difficile à vivre pour les établissements scolaires, parce que si vous voulez, une partie du Liban est en effet en proie au bombardement, les populations déplacées arrivent, il y a des zones un peu hybrides qui parfois sont touchées. Il y a d'autres moments non, mais il y a des zones où il ne se passe rien en fait. Je pense notamment à certaines régions du nord, comme Tripoli, Batroun, Byblos, etc., ou de la montagne, et certaines régions de Beyrouth aussi, ou de l'agglomération, comme Jounieh. Donc ça a été assez compliqué. Il y a eu un échange un peu vif entre notamment le secrétariat général de l'enseignement catholique et les écoles privées du Liban pour que la responsabilité de l'ouverture des établissements revienne aux directeurs et directrices d'établissements scolaires. Ce qui devait avoir lieu il y a 2 semaines, et finalement le ministre de l'Éducation est revenu dessus, ce qui a été vécu en tout cas par tout le monde comme une décision politique, comme une façon finalement d'entraîner toutes les écoles dans le sort de cette guerre et dans ce qui se passait. Et là, dimanche dernier, il y a eu une annonce du ministère comme quoi la responsabilité de l'ouverture des écoles revenait au directeur. Donc les écoles commencent à réouvrir cette semaine dans le secteur privé, mais dans le secteur public, l'ouverture est reportée jusqu'au 4 novembre. Donc là aussi, si vous voulez, en plus, les écoles publiques sont en grande partie occupées par des déplacés un peu partout dans le pays. Donc notre crainte actuellement, c'est qu'on ait, si vous voulez, tous les élèves du secteur public, je me dis, c'est quand même 15% des élèves libanais qui sont aujourd'hui scolarisés dans le secteur public, qui n'ont plus d'école. Et donc, ces élèves, il faut les prendre en charge. Donc, comme le disait Simon tout à l'heure, il y a une réflexion actuellement au niveau du ministère et du secrétariat général de l'enseignement catholique pour voir si, à un moment donné, les élèves du secteur public doivent être pris en charge par les écoles privées dans des systèmes de shift, c'est-à-dire que le matin, vous auriez les cours pour les élèves de l'école et l'après-midi pour les élèves du public qui n'auraient pas cours. Voilà, mais ça pose énormément de questions, évidemment. Et là, en plus, la difficulté qu'on a, c'est que jusqu'ici, c'était les écoles publiques libanaises qui prenaient en charge, en deuxième shift, les élèves réfugiés syriens. Donc, quoi qu'il arrive, on est face à un casse-tête et à un drame, en fait, clairement, qui va avoir lieu sur le sort, sur la scolarisation des élèves libanais, mais aussi syriens, en fait, hein, qui sont présents sur le territoire libanais. Donc, c'est absolument. Voilà, on est hyper inquiet hein, sur cette situation. Et je ne parle même pas des écoles qui sont aujourd'hui fermées. Donc, les écoles du sud, sud-sud à la frontière, qui avaient réouvert en début d'année scolaire, je tiens à le dire quand même. Nous, on avait neuf partenaires, neuf écoles que l'on soutenait tout le long de la frontière. Marjayou, Nainebel, Debel, Al-Mashab, tout ça, il y a des écoles. Remeish, toutes ces écoles avaient réouvert en présentiel en début d'année parce que durant l'année scolaire précédente, elles étaient en ligne, les cours étaient en ligne. Et en fait, au Liban, quand les cours sont en ligne, bon, d'abord, l'enseignement se dégrade énormément. C'est un pays où il n'y a pas d'électricité en permanence, des problèmes de connexion, il y a une perte au niveau de l'enseignement. Mais également, dès que les cours passent en ligne, les parents ne payent plus les scolarités. C'est un fait qu'on a constaté notamment au moment du Covid. Les scolarités ne rentrent plus, donc les salaires des profs ne sont plus payés, donc les charges ne sont pas payées, donc l'école est en banqueroute et ne peut plus fonctionner. Et donc notre crainte, c'est qu'actuellement, toutes les écoles où les cours passent en ligne, il se passe la même chose, et donc à un moment donné, les profs aussi laissent tomber parce que leur salaire n'arrive plus, et que, donc, vous voyez, ça a des conséquences catastrophiques. Et là, avec l'élargissement des frappes israéliennes sur le Liban, on a beaucoup d'écoles qui aujourd'hui ne peuvent plus ouvrir. Du côté de Saïda, Mahamrieh, Dar Bessine, il y a des écoles. Dans la plaine de la Bekaa, un très grand nombre d'écoles, même d'écoles partenaires, Ras Baalbek, Baalbek, Jaboulé, enfin, toute une près de Zarlé aussi, les écoles ne peuvent pas réouvrir en présentiel. Elles vont réouvrir en ligne dans des conditions très précaires et on a peur qu'elles aient du mal à fonctionner cette année scolaire. Et je tiens à souligner qu'au niveau associatif, nous, tout ce secteur. Des écoles qui étaient soutenues par un nombre assez limité d'organisations internationales ou d'associations libanaises avions déjà du mal avant la guerre de faire tenir ce monde-là qui en plus qui ne reçoit pas de fonds de grands bailleurs internationaux parce que ce sont des écoles privées même si elles sont à but non lucratif et qu'elles jouent un rôle de service public pour la population. Et donc, on avait du mal déjà, mis bout à bout, à faire survivre ce secteur-là, à payer les scolarités des élèves, à installer des panneaux solaires sur les écoles pour diminuer les charges de mazout, des générateurs, à payer des bonus aux profs. Donc, on est très inquiet sur le volet éducatif, également, en plus de tout ce qui a été dit, tout à l'heure sur le déplacement des familles et des élèves déscolarisés, des familles déplacées.
Et la deuxième question, la situation sécuritaire.
Et pardon, la situation sécuritaire. Alors c'est assez, mais là il y a des journalistes qui sont présents aussi dans la salle, donc ils répondraient sans doute mieux que moi. Mais ce qu'on constate, c'est que pour le moment, même s'il y a eu, si vous voulez, il y a la zone du sud Liban qui est frappée par les bombardements, il y a eu une extension des zones de frappe. Donc il y a des zones qui avant étaient sûres, qui aujourd'hui ne le sont plus, avec des frappes sporadiques ça et là. Notamment entre le sud, la frontière et Saïda, plusieurs zones de la plaine de la Bekaa, certains villages bien spécifiques de la montagne libanaise et évidemment la banlieue sud. Mais en dehors de cela, je dirais à Beyrouth, l'accès à l'aéroport est encore possible. Si vous arrivez à attraper un vol, la route de l'aéroport est encore utilisable et vous pouvez rejoindre Beyrouth et ensuite circuler au Liban. Dans une certaine mesure, en évitant enfin, voilà, il y a certaines zones qui sont compliquées, même la banlieue sud, l'accès pour les journalistes, je crois, est enfin, voilà, extrêmement complexe. Voilà, mais sinon, dans le reste du pays, on peut quand même circuler.
Vous aviez une question?
Oui.
Est-ce que c'est possible de soutenir le secteur privé pour qu'il puisse lui-même prendre en charge les écoles qui sont à proximité? Je parle par exemple des écoles catholiques qui seraient à côté des municipalités de chaque village, dans les régions d'accueil des réfugiés, à côté des écoles publiques, où les professeurs pouvaient aller après online ou après tout ce qui est sur Internet avec les élèves privés, sur place, voir quels sont les besoins des personnes qui sont à l'intérieur de l'école, pour leur donner un enseignement de fortune, certes, mais quand même un certain enseignement. Et parce qu'il y a maintenant des initiatives qui sont en train de se mettre en place concernant les hommes, parce qu'il y a une année qui va commencer, Et les initiatives qu'on a aujourd'hui qui sont en place pour pouvoir nourrir ces personnes qui sont présentes, environ entre 100 et 300 personnes dans chaque école, elles vont se tarir nécessairement, elles ne peuvent pas se maintenir. Donc il y a des hommes qui sont sans travail et des enfants à faire étudier. Donc on est à la recherche d'initiatives pour faire travailler ces hommes qui sont aussi en majorité soit des agriculteurs, soit des travailleurs.
Alors, nous, enfin, bon, d'abord, on est face, honnêtement, comme vous l'avez dit, on est déjà dépassé, hein, nous, au niveau de notre association, mais je crois que dans la discussion qu'on a avec les autres organisations qui sont sur place, c'est un petit peu la même chose. D'abord, il y a un point sur lequel on souhaite être vigilant, c'est que les populations déplacées aujourd'hui font l'objet d'une aide qui arrive, qui afflue, dans des régions où il y avait déjà des personnes très vulnérables. Donc, ça crée aussi, on l'a vu dans certaines zones, une compétition, une jalousie, enfin, ça peut créer des problèmes. Donc, il y a aussi ce sujet-là qui va rapidement arriver. Après, en effet, je vous dis, il y a on a parlé de la scolarisation des enfants. Il y a en effet les personnes qui arrivent qui n'ont plus d'emploi. On ne sait pas si cette crise va durer ou pas. C'est ça la grande point d'interrogation. Est-ce que ça va durer quelques semaines, quelques mois? Est-ce que les gens seront en mesure de rentrer chez eux un jour? Est-ce que cette zone va être occupée? Est-ce qu'elle va être rendue? Je ne sais pas. En fait, on ne sait pas ça. Et donc, on est face à en fait, on est face à, on entrevoit des problématiques qui nous font peur. En réalité, et qui nous font peur aussi parce qu'on sent que les moyens sont limités. Voilà. Et donc, oui, il y a plein d'initiatives à mettre en place. Pour ça, les Libanais sont très créatifs. On voit chez nos partenaires des très belles choses qui se mettent en place au niveau des traumatismes, du psychosocial. On a des partenaires qui se sont manifestés pour prendre en charge les élèves, les familles, les accompagner, sur du soutien scolaire également. Donc, on sent que c'est au-delà de l'aide d'urgence, il y a déjà une réflexion sur le plus long terme. Et ça, c'est assez positif parce qu'on sent que déjà les gens commencent à se projeter en se disant ça va durer. Ça va durer plusieurs mois. Donc ça, c'est bien, mais encore faut-il avoir, voilà, encore une fois, avoir les moyens de cette action, quoi.
Les Libanais se convaincus que, quelle que soit la durée de la guerre, l'année scolaire est terminée. C'est que pour cette année, ceux qui vont à l'école publique n'iront pas. Ceux qui vont à l'école privée iront, bah, sur Internet, dans une certaine mesure, un peu en présentiel pour les écoles qui sont bien éloignées de tout ce qui est bombardement, mais c'est très très limité. Peut-être, concernant les écoles catholiques, en trouvant un deuxième travail pour les professeurs qui travaillent dans les écoles catholiques. Concernant les réfugiés dans les écoles publiques, ça pouvait les soutenir et les garder dans les écoles catholiques. C'est ce qui a été fait pour les réfugiés syriens.
Oui,
C'est-à-dire les salaires des professeurs des écoles publiques a été payé quand les professeurs des écoles publiques libanaises ont enseigné les réfugiés syriens à la politique.
non, mais nous, dans la réflexion, alors après, nous, ce n'est pas notre décision, c'est la décision des écoles, des responsables. Mais dans la réflexion qu'on a, moi, j'ai le sentiment que les écoles privées sont prêtes à ouvrir leurs portes, mais elles vont avoir besoin de soutien, en fait. Et jusqu'ici, comme on l'a dit, ce soutien, elles ne l'ont pas vraiment eu de la part des grands bailleurs internationaux parce qu'elles étaient soit confessionnelles, soit privées, etc. Et nous, c'est vrai qu'on essaye à l'Œuvre d'Orient de mettre en avant la mission de service public que jouent ces écoles qui sont à but, encore une fois, non lucratif, dont un grand nombre d'entre elles sont des écoles semi-gratuites qui sont censées être subventionnées par l'État libanais au niveau des scolarités des élèves et qui ne le sont plus depuis 5 ans. Donc, ils sont déjà en soi un poids pour les responsables de ces écoles alors qu'elles accueillent les élèves les plus vulnérables du Liban dans tout le territoire libanais et notamment dans les zones rurales et les quartiers les plus pauvres. Donc, moi, enfin, on espère, nous, de notre côté, que ces élèves du public pourront quand même aller en classe, parce que, et je crois que le ministère de l'Éducation souhaite ça aussi, qu'il n'y ait pas de séparation privé-public, une école privée qui ouvre et l'école publique à côté qui n'ouvre pas parce qu'elle est occupée par des déplacés, ce n'est pas possible. Donc, il faut trouver une solution pour les élèves du public, pour qu'ils puissent quand même aller en classe dans ces écoles, mais il va falloir qu'elles aient un soutien plus massif que ce que jusqu'ici, nous autres, organisation ou association libanaise de taille modeste, pouvions leur apporter déjà en les portant à bout de bras.
Et ça peut être un outil d'inclusion. C'est-à-dire
Oui, bien
soutenir,
sûr, il y a
surtout
de...
les professeurs des écoles privées semi-gratuites, peut être un outil d'inclusion pour les élèves et les enfants des réfugiés. L'inclusion dans les classes.
y a plein de possibilités qui s'ouvrent, en effet. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la en ligne?
Moi, j'ai deux autres questions. Je voulais savoir si vous aviez écho de tensions du fait des déplacements de tensions entre des populations chiites qui sont déplacées sur des zones chiites ou sur des zones sunnites ou chrétiennes, parce que ça crée des tensions dont vous avez écho. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous pourriez nous parler un peu des déplacements vers la Syrie? On peut avoir l'impression de loin que la Syrie, dont on a parlé tellement souvent dans des articles pour dire à quel point c'était une situation extrêmement difficile, devient un lieu d'accueil pour, paradoxalement, pour les réfugiés du Liban.
Alors, sur la première question, je vais vous dire oui, il y a un risque réel de tension entre Libanais et on le sent ici avec cette crise, Parce qu'en effet, d'abord, je pense que dans n'importe quelle crise, j'irais de déplacés, il y a toujours une tension entre ceux qui arrivent et ceux qui accueillent. Ça, je crois qu'on peut, on peut le généraliser dans plusieurs, plusieurs cas similaires. En revanche, là, c'est vrai qu'on a des populations majoritairement chiites. Qui arrive chrétienne, on l'a vu aussi, puis sunnite aussi, donc ça touche toute la population libanaise, mais ce sont celles qui arrivent de la banlieue sud, par exemple, ce sont des gens de la communauté chiite. Donc oui, il y a un risque de tension, mais ce risque de tension, si vous voulez, il existe dès lors que des miliciens et des hommes armés ou que des partis politiques se mêlent en fait de cela. Mais quand il s'agit de population, il y a un accueil. Nous, on a vu encore une fois des très beaux exemples d'accueil au centre où Simon a été volontaire, où on a vraiment des chiites et des chrétiens de tout le Liban, des chiites qui arrivent de la banlieue sud, qui sont ensemble en fait dans ce centre. Donc, puis voilà, je vous ai dit, il y a des écoles chrétiennes qui accueillent des élèves chiites, des sunnites aussi, les Makassed, la société de bienfaisance sunnite qui accueille aussi des réfugiés chiites. Donc, il y a une compassion, si vous voulez, de la. De la part de la population libanaise pour ces familles qui fuient, qui sont traumatisées et qui sont innocents, qui sont des civils. Et là aussi, je tiens à le souligner. Parmi ces déplacés, on ne parle pas les 1 200 000 déplacés, ce n'est pas tous des miliciens. Ce sont des civils pour la grande majorité d'entre eux. Et donc voilà, ce sont des civils, des femmes, des enfants, des vieillards. Et donc, c'est eux qu'il faut aider. Et je crois que les Libanais sont prêts à ouvrir leurs portes, mais aussi, voilà, à condition que n'y ait pas cette. Cette tentative de s'immiscer de la part des milices et des partis politiques dans cette affaire-là. Mais c'est un risque réel, on l'a tout à fait identifié, et c'est bien pour ça qu'un communiqué de presse de notre part et qu'une note a été envoyée aux Nations Unies pour faire part de ce danger, de ce risque et de ce qu'on a pu observer, de ce que les gens nous ont témoigné ici. Et puis le deuxième point sur la Syrie, alors bon, bah, nous, voilà, on a un pied à la fois au Liban et en Syrie, donc on suit aussi ce qui s'y passe. En fait, en Syrie actuellement, donc on parle de 100 000 personnes qui sont arrivées du Liban vers la Syrie, principalement des Syriens, mais aussi des Libanais. Et jusqu'ici, c'est le gouvernement syrien qui prend en charge, a priori, l'accueil de ces personnes avec les Nations Unies. Nous, on a sondé auprès de nos partenaires qui sont actifs auprès de la société civile syrienne. Que ce soit des institutions religieuses, des associations, et jusqu'ici, elles n'ont pas été sollicitées ni mobilisées. Voilà. Donc pour le moment, nous, on n'a pas d'action spécifique sur la Syrie, sur l'accueil des déplacés, parce que nos partenaires n'ont pas d'action là-dessus, mais on a le sentiment que ça se fait plutôt au niveau des Nations Unies et de l'État syrien.
Vincent, et l'ONU vous apporte aucune aide pour les déplacés ou par d'autres biais d'associations ou d'ONG?
Non mais en fait, au Liban, vous avez une présence importante hein, du secteur humanitaire. Vous avez les grandes organisations internationales sont présentes, les organisations françaises, vous avez Première Urgence, vous avez ACT-AID, vous avez Handicap International, les Nations Unies sont là, l'UNICEF est actif. Oui, ils sont actifs. La seule chose, c'est que ce secteur, les grands bailleurs internationaux soutiennent au Liban le secteur public et le secteur informel, c'est-à-dire les réfugiés. Et comme on l'a vu précédemment, le secteur public au Liban a la singularité d'être minoritaire dans le paysage libanais par rapport au secteur associatif et au secteur privé. Et le secteur informel qui est massif pour le coup, qui est celui des réfugiés. Et donc c'est vrai qu'il y a une part, il y a tout un monde au Liban qui est le monde de ces institutions religieuses et aussi du secteur associatif qui est. Avec quelques grosses associations libanaises, mais aussi un très grand nombre de petites associations comme l'IBAMI, etc., qui font un travail vital pour ce pays, qui ne reçoivent pas d'aide de la part de ces grands bailleurs. Voilà, donc C'est vrai qu'on voilà, on souhaite aussi attirer l'attention là-dessus parce que l'ONU est active et elle soutient dans le cadre de son rayon d'action, mais qui est, comme on l'a vu au Liban, assez ciblée et finalement assez limitée par rapport à l'ampleur des besoins et à l'ampleur des possibles, en fait, des partenaires possibles qui pourraient bénéficier de ces aides sur le terrain, sachant que ces partenaires en plus sont des gens qui sont ancrés sur le terrain depuis longtemps, qui sont quand même solides, plus transparents. Et donc, on essaye aussi, depuis un certain nombre de mois, aussi à l'œuvre d'Orient, d'attirer l'attention de ces bailleurs sur ces institutions-là qui jouent aujourd'hui un rôle fondamental dans la façon dont cette crise va être gérée, quoi.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui.
Oui, merci beaucoup. Bonjour Vincent et merci beaucoup. Et je mesure un peu de loin tout l'énorme travail que vous faites. Et j'espère que, et merci pour toutes ces informations que vous nous donnez qui vont nous aider à les répercuter ici. J'avais juste une question très, très simple au sujet de l'hôpital universitaire dont vous nous avez parlé. Est-ce que vous avez des liens avec des ONG genre Médecins du Monde ou MSF pour éventuellement avoir des coups de main ou est-ce que c'est complètement hors champ?
Alors, on est actuellement sur cet hôpital. On est en train d'abord de discuter avec le centre de crise et de soutien du ministère des Affaires étrangères parce qu'on aimerait pouvoir faire en sorte que cet hôpital puisse bénéficier de fonds directs. Mais comme Mayol vous l'a dit, il y a aussi des besoins en ressources humaines. En fait, ce sont des services qui ont perdu du personnel soignant et du personnel qualifié ces dernières années. Et donc, si en effet il y a la possibilité de faire venir du personnel compétent, ce serait très bien pour cet hôpital. Là, on va discuter avec ces organisations. Voilà, c'est quelque chose qu'on avait prévu de faire pour attirer leur attention vers cet hôpital. Mais je crois que ce secteur, Médecins du Monde et tout ça ont déjà aussi, vous savez, c'est des organisations qui sont présentes depuis longtemps ici. Elles ont déjà leur secteur d'action qui est surtout un secteur d'urgence, du première urgence, je crois. Et cet hôpital a la singularité d'avoir voilà, un secteur tout à fait particulier des grands brûlés, en fait. Donc des gens qui ont des brûlures graves. Et jusqu'ici, en tout cas, clairement, malgré le fait que c'est un des hôpitaux importants de Beyrouth, il n'a pas suscité l'intérêt visiblement suffisant pour attirer à lui des organisations qui sont aussi présentes sur place. Donc c'est pour ça que d'abord d'ailleurs cet hôpital, notamment grâce à un article du Monde qui est paru ce week-end, est en train voilà on essaie d'attirer un peu la lumière à lui entre autres parce que on voit pas comment il va pouvoir poursuivre ça. En fait on est inquiet comment il va pouvoir poursuivre sa mission sur le long terme si on lui donne pas un petit peu les moyens de tenir au moins pour soigner les victimes de la guerre.
Et avez-vous une idée où sont partis les personnels soignants qui manquent aujourd'hui?
Alors, il y a un certain nombre de personnels soignants qui sont partis à l'étranger parce que les salaires restent faibles.
30%.
On parle de 30%. Et puis, il y a un besoin de formation qui est très important. Puisqu'en fait, les grands brûlés, il y en a principalement en temps de guerre. Et malgré les multiples guerres que le Liban a connues, on s'aperçoit que finalement, c'est un maillon, comme je disais, de la chaîne de soins qui est critique, mais qui est insuffisamment traité ici au Liban. Et par rapport à cet hôpital, pourquoi les grandes organisations ne s'y intéressent pas pour l'instant? Je dirais que c'est en fait c'est un exemple typique de ce que disait Vincent tout à l'heure de manière plus générale. C'est-à-dire que les grandes organisations s'occupent du secteur public et du secteur informel, ce qui est très bien, mais ce qui est de toute manière insuffisant puisque ça représente une part minoritaire de l'ensemble des besoins de la population libanaise. Et cet hôpital, on le voit très bien puisqu'il a un maillon essentiel de la chaîne de soins. Donc, il est de toute manière irremplaçable. Il n'y a pas d'équivalent pour les blessés graves, les brûlures graves au Liban. Mais comme il ne fait pas partie du secteur ni public ni informel, alors même c'est une institution reconnue, il n'est pas connu ou peu connu des grandes institutions que vous avez citées.
Merci beaucoup.
Voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. On va finaliser là-dessus. Donc voilà, je tiens encore à renouveler cet appel, je dirais ce cri qui est le nôtre, mais qui est surtout aussi celui de nos partenaires sur place pour venir en aide à cette population libanaise. Si vous le souhaitez, on va vous laisser notre adresse mail, nos contacts. Si vous souhaitez les rencontrer, pour ceux qui peuvent venir au Liban ou ceux qui sont sur place, voilà, on est prêt à vous mettre en contact avec eux pour que vous puissiez, voilà, ou si vous souhaitez les interroger également, vous transmettre leurs contacts pour que vous puissiez les interviewer, les rencontrer et mettre en lumière l'action qu'ils ont et qu'ils fassent part aussi de la situation qu'ils vivent en fait sur le terrain. Voilà, ben, on vous remercie tous
Merci beaucoup.
d'avoir assisté à cette conférence de presse. Je sais pas, Armelle, si tu veux conclure, tu veux dire quelque chose?
Merci beaucoup, Vincent. C'était très complet. Et merci à l'ensemble de l'équipe. Donc, vous avez identifié les différentes personnes qui travaillent aux côtés de Vincent et qui sont vraiment à votre service pour vous renseigner et, comme disait Vincent, pour mettre en lumière l'action des communautés chrétiennes. Nos besoins sont immenses. Dans le chat, j'ai marqué, si vous voulez faire un encart pour des appels à dons, j'ai marqué l'adresse du site internet de l'œuvre d'Orient, oeuvre-orient.fr, ou alors l'œuvre d'Orient, 20 rue du Regard, 7506 Paris. Mais également, vous pouvez aussi voir ce que font nos partenaires et associations amies que Vincent a citées au début de la conférence. Et donc, on se tient à disposition. Simon vous renverra l'enregistrement de ce point presse et n'hésitez pas ensuite si vous avez d'autres questions. On se tiendra à vos côtés. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Merci. Merci à vous d'être venus. Si vous voulez prendre un verre d'eau ou un café, si vous voulez discuter.
On aimerait bien, nous, discuter avec vous sur place. Salut Guillaume. Salut Marine.